Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106. Aujourd'hui, deuxième partie des interviews du festival Rush. Et on commence avec Snapped Uncles, suivi de Unschooling, Mannequins, Zombie Zombie et Bungalow Dépression.
Radio Lomax, l'émission du 106.
En direct du festival Rush avec un des membres de Snapped Ankle, il s'agit d'Austin qui est avec nous, installé dans l'Est de Londres, le groupe né en 2011. Il a joué dans des fêtes d'entrepôt, des squats, a collaboré avec des cinéastes et s'est produit dans divers lieux improbables, salons de coiffure, salles d'arcade ou clairières au milieu de la forêt, percussions tribales comme vous l'avez peut-être entendu, boucles synthétiques abrasives et guitares distordues, un vrai show qui nous a emmené très très loin pour certains, j'imagine. La musique des hommes des bois modernes, en quelque sorte un premier album en 2017 comme Play the Trees, le deuxième Stunning Luxury est sorti en mars dernier. Donc Austin, bonsoir, merci d'être avec nous.
Thanks for being here with us.
Comment est né Snapped Uncles, les chevilles cassées? Vous venez de quel milieu, de quelle mouvance?
So where is your group from in terms of influences and what gets you going?
Our group is from the woods.
Okay.
The forest gets
forêt.
Us. Well, it gets us going. The trees get us going.
Les arbres, le forêt, nature.
Yeah.
La nature.
Qu'est-ce que vous faisiez
dans? The organic.
Ils sont organiques.
The bio.
Biologique, organique.
Qu'est-ce que vous faisiez dans la forêt avant de faire de la musique?
So what were you doing in the forest before you did music?
What were we doing in the forest before we did music? I can't remember.
Frolicking.
There was nothing. There was just fungus.
Il y avait les néons, il y avait que les champignons et eux.
Voilà. Sur quelle réflexion quand même s'est construit le groupe et ses chansons avec ses costumes de chaman, ses branches oui. d'arbres pour envoyer des sons, tout le concept que vous apportez sur scène aujourd'hui. Comment est-ce que c'est né? Quelle réflexion c'est né ça?
Okay, so we were researching what is, you know, when you look at rock and roll, and you have rock and roll is the if you go to the past before rock and roll,
avant le rock and roll,
yeah, and you go back
et tu recules before encore plus loin dans le passé,
before having fun in churches,
avant qu'on s'amusait
where
dans les églises,
the people would create the fears of the forest and they would come out to just show you a glimpse of what is wrong, and if you go, you know, if you don't, if you party with the devil or whatever, you know, that is the same.
Les peurs des forêts,
that is the same as venez. The shame. That pagan, that is the rock and roll.
Cette idée du diable, quelque chose qui sort du forêt, quelque chose d'organique qui engendre la peur.
In our mushroom-addled minds, is linked.
Tête de champignon, ils sont, c'est lié, cette idée de peur.
To Elvis's hips. Jim Morrison's leather trousers.
Traverser les hanches de Elvis et le blouson en cuir de Jim Morrison.
Iggy Pop's peanut butter.
Le beurre de where cacahuète d'Iggy Pop.
Slipknot. Where do we go on? The fear, you know, the Kiss.
Le mask. The mask Kiss is avec the les fear. Masques.
Yeah, where?
C'est la peur.
It's fun. I mean, it's kind of.
So you like to play with fear.
It's yeah, but in a nice way. It's
on
not.
On joue avec la peur, mais d'une manière ouais. gentille.
Et le retour aux forêts, c'est quelque chose qui vous concerne? Vous imaginez vivre dans quelque chose de moins urbain? Aujourd'hui, vous vivez à Londres, en milieu très urbain. Est-ce que la nature vous attire, vous appelle?
We are always in the forest.
On est toujours dans le forêt.
The metaphorical forest.
La forêt métaphorique.
Yeah. It's a forest, isn't it? With a city is a forest.
Même une ville est un forêt.
Wow. We are currently our latest experiment is as the forest monsters are now estate agents.
Leur dernier modèle, c'est effectivement les monstres du forêt, c'est des agents immobiliers.
Parce que we are all the places that we play, the warehouses and the DIY spaces are being shut down and turned into luxury flats.
Partout où ils jouent maintenant, tout est en train d'être détruit, fermé. Et justement, pour que ça soit réhabilité ou reconstruit à ces espèces des appartements de luxe.
And,
ce qu'on appelle la gentrification.
It's gentrification plus because they turn it into a commodity.
Ah, donc ça devient carrément quelque chose qu'on achète, qu'on vend, il y a un prix, il y a l'étiquette consommation, consumerism.
Yeah, it's sold, it's for investment, it's not for people to live in.
Ah, c'est pas vraiment pour une vie, c'est pour l'argent, c'est pour l'investissement, ça représente.
So we found in London, and every city we go to, it's the same story, the artists have these little spaces that are sometimes legal, sometimes not. But then the value of the land is high, and European land is the safest bank to keep your money if you are in another country where you might lose your money if you're a wealthy person. So they're saving all their money in our art spaces by knocking them down and building castles.
Bah, ils détruisent effectivement tous les espaces légal, illégal pour les artistes, pour qu'ils épanouissent. Et maintenant, ça ne devient qu'un moyen, justement, pour gagner de l'argent. C'est le terrain. Ils reprennent tous ces terrains pour l'investissement.
Merci beaucoup.
Merci.
Thank you very much. Snap and Uncle.
Merci.
Un des membres des Unschooling, tu peux prendre un micro. Voilà un deuxième élément du groupe et on aura sans doute un troisième élément dans quelques instants. Vous venez au compte-gouttes, quoi. Bonsoir. Donc, Defensive Designs, c'est votre premier album. Il a été réalisé au Canada sur format cassette. Donc, on va avoir l'occasion de parler de ça. On repart avec vous dans les années 80-90 un peu, avec les années 2019 en toile de fond tout de même, forcément. Donc, on va avoir trois membres, Vincent, Damien et Maxime, c'est ça ?
Exactement.
Donc là, c'est...
C'est Maxime.
Maxime.
Damien.
Maxime et Damien. Comment est-ce que vous vous distribuez les rôles ? Parce que j'ai cru comprendre que le point de départ, c'était Vincent. Alors, il n'est pas encore là, Vincent, mais comment ça démarre exactement cette histoire-là ?
Ça a démarré. Vincent est parti au Canada pendant quelques mois l'année dernière. Il a enregistré tout plein de morceaux, du coup, tout seul. Et voilà, du coup, il a pondu l'album tout seul, comme ça, il a tout enregistré absolument tout seul. Et le groupe, après, s'est formé vraiment en live, comme assez souvent dans un bar. où voilà, j'avais pu écouter les morceaux de Vincent. Je lui ai dit, c'est génial, si tu le montes en live, je veux en faire partie, quoi. Et en fait, il pensait pas le monter en live. Et vu que Marc et moi, on lui en a parlé, Marc est à la batterie, qui joue dans Mannequins aussi,
ouais.
Bah, au final, il l'a fait. Et du coup, on l'a monté en live. Il a rappelé Damien, qui connaissait depuis longtemps, je crois, depuis le lycée ou le collège. Et voilà, du coup, ça s'est fait comme ça en live, quoi.
Bon, assez alors, bizarre. Alors, c'est dommage que Vincent soit pas là, parce que comme c'est un petit peu le début de l'histoire, bah voilà, il est là. Et donc, les rôles se sont distribués comme ça. C'est-à-dire que Vincent, toi, t'es parti composer tout seul au Canada, c'est ça ? T'as enregistré tous les morceaux. Et puis c'est ensuite, t'as été pioché dans le vivier local, enfin, des gens que tu connaissais peut-être ou pas, que t'avais vu jouer.
C'était des gens que je côtoyais déjà, mais on n'avait jamais vraiment fait de musique ensemble au final. Et ça l'a carrément fait au final.
Et ensuite, comment ça se passe quand on arrive avec des morceaux tout faits et qu'on dit à trois gars, comment on s'y prend ? Est-ce qu'on laisse un petit peu de latitude quand même ou est-ce que...
Ouais, je pense aussi que c'est important de faire ça, mais dans l'idée générale, il y a plusieurs moyens de procéder. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé les pistes solo aux gars et... pour avoir la passe, quoi, des mélodies et, et compagnie, quoi.
Donc ils avaient leurs morceaux, leur partie à eux.
Ouais, toutes les parties en solo, ils ont appris et je sais que je pourrais leur faire confiance à ce niveau-là, quoi. Donc du coup, c'est cool.
Et comment ça s'est passé alors au Canada, la construction de ces morceaux ? J'imagine que t'es parti pendant un certain temps quand même pour pouvoir produire tout ça.
Je suis parti 4 mois à peu près.
La raison du départ, du voyage, c'était quoi ?
Un permis vacances-travail.
D'accord. Et donc t'avais parti travailler là-bas ?
Ouais, c'est ça, ouais. Faire la plonge.
D'accord.
Mais visiter aussi un peu.
Et puis faire de la musique.
Ouais, aussi faire de la musique, ouais.
Et alors,
j'ai fait ça sur un ordi, en fait, une carte son. En fait, la vérité, c'est que j'ai enregistré le truc véritablement en France après, quoi.
Ouais.
C'est plutôt ça, en fait, dans les faits, quoi. Mais de base, les morceaux étaient là déjà sur place, quoi.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle on appelle plus ça un side project, mais on pourrait presque le faire, puisque vous jouez tous dans d'autres groupes rouennais, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut faire le point un petit peu sur ça déjà pour commencer ?
Vous jouez dans quel groupe ? L'inventaire des groupes.
Okay. Ouais, c'est ça, qui tourne autour d'Unschooling.
Moi je joue dans Unschooling du coup.
Ouais.
Je suis dans aucun groupe à part
Unschooling.
Ok.
J'ai Popping Hole, Secret Girls, le projet solo de Marc aussi. Qui se fait, et j'en ai oublié chaque fois. Et Julius Spellman, oui, quand même, surtout. Voilà, parrainé par le 106 aussi. Et typiquement, avec Julius Spellman, Unschooling, on marche un peu main dans la main en ce moment. Les projets sont formés en même temps et on essaye d'avancer un peu ensemble, quoi.
Et Marc, c'est Mannequin, c'est Armabomb.
Exactement.
Voilà, qui lui s'occupe plutôt de la batterie là sur Unschooling. Et avec le projet solo, effectivement, qui va sortir. Alors peut-être on peut en parler un petit peu parce qu'il n'est pas là avec nous, mais quel est son rôle à lui et peut-être, je sais pas, vous avez entendu déjà un petit peu son projet solo. Je crois qu'il sort sur 2 morceaux sur DSL, le label du 106, mardi prochain. Donc on pourra écouter ça. C'est vraiment un truc un peu à part, du coup, hein, parce que là il chante en français, je crois. Enfin, il y a un truc. Vous pouvez nous en parler un petit peu de son travail à lui ou pas ?
Okay.
De son rôle
dans le groupe ou
ouais,
son rôle
Son okay. rôle dans le groupe et dans l'univers.
Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'écouter les 2 morceaux
pas
à
encore.
Venir. Pas encore. Je savais pas qu'il chantait en français d'ailleurs,
mais
d'autant plus cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Mais on écoutera tous ensemble mardi prochain. On sera à l'écoute de la sortie d'Alt DSL.
Ouais.
Mais dans le groupe.
Son rôle dans le groupe ?
Ouais. Est-ce qu'il a un rôle particulier ? Il n'est pas là, on peut parler de lui, même en mal. Hein, du coup.
Non, je dirais simplement il assure la section rythmique et il apporte ses idées comme tous les autres membres. En fait. Comme je disais, ce n'est pas limité à un projet où j'apporte toutes les pistes et compagnie. Il y a toujours de la place pour les autres et leurs idées, quoi.
On va parler du groupe en général et puis d'Unschooling aussi,
ouais.
Mais j'avais envie de poser une sorte d'image. Donc les débuts en musique, Vincent, c'est la banlieue havraise, après avoir vécu votre enfance dans le sud de la France, un peu...
Putain, vous êtes bien renseigné.
Un peu esselé.
Ça fait carrément flipper.
Non, mais moi, je connais des gens qui vous connaissent. Un peu esselé, les cheminées qui fument, hein, les cheminées de la banlieue havraise.
Notre-Dame de Grandmanchon, s'il y a des gens...
Une certaine forme de désœuvrement. Et puis la musique, finalement. Donc, c'est un peu le cliché du gars qui s'emmerde, qui arrive, qui connaît personne et qui fait de la musique. Et puis tout à coup, tout s'ouvre, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Ouais.
J'ai mis quand même un peu de temps avant d'avoir cette démarche-là, mais ouais, c'est un peu ça, ouais, je crois.
C'est-à-dire d'avoir quelle démarche ? D'aller vers les autres ?
Ouais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais, je pense, ouais.
Et Mannequins, alors, vous avez joué dans Mannequins, c'est une période ?
Ouais, j'ai joué depuis les débuts quasiment.
Ouais, c'est ça. Vous nous racontez cette période, Mankins, un peu?
Ouais, je veux bien, ouais.
Ils sont plus là, ils sont repartis, là aussi, vous pouvez leur dire du mal.
C'était, globalement, c'était vraiment cool. Je pense juste, en fait, parce que c'est moi qui ai... C'était un parti pris de ma part de partir de ce groupe, du coup.
Ouais.
Il n'y a pas eu de malentendu, ça s'est super bien fait. J'ai pris le temps d'apprendre mes parties grattes à Marc et compagnie, quoi. C'était une super expérience. Je pense juste que j'étais peut-être un peu trop jeune à l'époque. Je comprenais pas, genre, quand on partait en tournée et tout... Je voyais plein de choses nouvelles et c'était souvent la fête et moi je voulais juste faire de la musique et rentrer me coucher après quoi. Mm. Bon, ça a changé un peu maintenant. Et c'était un peu le mood dans lequel j'étais à ce moment-là quoi. Mm.
Et Fat Cat Records, c'est... vous avez joué un rôle aussi dans cette histoire de label?
Ouais, de base c'est vrai qu'ils ont un site qui s'appelle Fat Cat Demos en fait. Mm. Tu peux leur envoyer des démos en fait. Et de base j'avais un projet solo qui s'appelait Life Steps Collection du coup. Ils avaient été intéressés, et du coup j'en avais profité pour parler de Mankins et compagnie, et il se trouve qu'au final, maintenant c'est Mankins qui bosse avec Fat Cat, quoi.
Ouais, c'est un petit peu mais grâce à vous finalement, un peu en partie,
non,
ouais, avec d'autres choses forcément.
C'est la conjonction de plein de trucs
bien
en
sûr,
fait. Et,
bien sûr.
Mais ouais, c'est un peu ça globalement. Ouais.
Et comment vous avez vu, comment vous avez regardé l'évolution du groupe Mankins?
Honnêtement, très honnêtement, je préfère carrément maintenant, quoi. Mm. Ouais. En fait, je les ai vus en live l'année dernière, je crois, c'était aux trois pièces. Ça faisait longtemps, j'avais mis mon orgueil de côté, je suis allé les voir et c'était vraiment cool, quoi. Et je me suis dit, merde.
Et
du coup, c'est vraiment génial et je suis content que Marc ait pris ma place d'une certaine manière. Et au final, maintenant, on est en super bon terme. Je suis en coloc avec Adri, et, le leader de Mankins. Et Marc joue de la batterie dans mon groupe, donc c'est cool. Et puis, on peut s'entraider et tout. Voilà, quoi.
Bon alors unschooling, forcément on va parler de ça d'abord, c'est la volonté de se tourner vers une éducation alternative au système éducatif mis en place par l'État, d'apprendre différemment, c'est aussi le fait d'être complètement déscolarisé, ouais. Sur la pochette on voit que l'éducation nous oblige à bien nous tenir aussi, alors je sais pas si vous avez les bonnes positions, peut-être qu'il va falloir faire attention,
c'est
des questions qui vous intéressent ça, l'éducation, ou est-ce que c'est juste le son qui... Le son du mot qui vous plaisait pour parler de... Pour
ouais, je nommer. Crois que c'était... En fait, je ne me suis pas vraiment pris la tête sur le nom du groupe. Mais d'une certaine manière, oui, je partage tout à fait ce que tu as dit là, ouais. Précédemment. Quoi. Je pense qu'il y a d'autres manières d'apprendre, l'enseignement théorique et tous ces trucs-là. Enfin, ouais, il y a plein d'autres manières d'apprendre. Quoi. Apprendre tout seul, apprendre avec ses parents, apprendre avec un prof. Bref, chacun trouve la manière qui lui plaît. Quoi. Moi, c'est les cours académiques et tout, ça ne m'a jamais... J'ai jamais réussi à me sentir bien là-dedans et à avoir une sorte de motif qui me poussait à me lever tous les jours pour y aller parce que je savais que ça allait être chiant, quoi. Voilà.
Donc vous avez, et vous aussi, les autres membres d'Unschooling, vous avez un rapport avec l'école particulier ou avec ce que vous avez vécu à l'école?
Non, bon, en soi, on a un peu menti parce que je suis pas déscolarisé du tout, je suis encore en études, moi. Donc,
bon, d'accord. Ouais.
Donc voilà, le rapport est pas le même pour moi.
Effectivement. Des études de quoi?
D'audiovisuel.
Ok.
J'ai vite arrêté l'école aussi. J'ai essayé la fac, ça m'a pas réussi. Et du coup, je suis allé dans le monde du travail. Et puis,
Il est couvreur sur les toits de Paris, du coup.
Exactement.
Ah oui, Notre-Dame, c'est vous alors?
C'était moi.
C'est lui. Oui. Arrêtez-le tout de suite.
J'ai un peu déconné ce jour-là, mais bon.
Et dans la musique, c'est la même chose? Il faut abandonner les écoles aussi, selon vous?
Non, du tout. J'en suis même arrivé à un point où je me dis que ouais, ce serait peut-être pas déconnant de suivre un enseignement en musicologie ou des trucs comme ça. Je pense qu'on peut allier le meilleur des deux mondes, mais c'est... Non, je sais pas, j'ai pas de parti pris là-dessus ou quoi que ce soit. C'est comme tous les trucs politiques et tout. J'essaie de prendre ce qu'il y a de meilleur dans tout et voilà, quoi. C'est tout.
Du côté Macron.
Ah non, pas spécialement. Non.
Timothée.
Pardon. Oui, il y a néanmoins peut-être cette volonté dans votre musique de casser un peu les rythmes. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose pour un peu briser le train-train d'une certaine manière de jouer du rock'n'roll?
Ouais, il y a de ça. Il y a de ça, et surtout parce qu'on a bouffé de la musique qui était comme ça aussi. Et on s'est dit, de base, ouais, on veut faire un truc qui soit assez arythmique, dissonant, mais à la fois avec des espèces d'éclairs pop, tu vois. En fait, c'est un peu la même démarche que Mankins, mais en même temps, on a passé pas mal de temps ensemble aussi, quoi. C'est de mêler des morceaux pop avec des trucs qui ont rien à voir et qui sont super dissonants et noise et compagnie, quoi.
On a parlé un petit peu de ce premier album qui avait été, alors, au final, pas si composé, enregistré que ça au Canada. Mais
c'est vrai.
Je me retourne vers les deux autres parce que c'est toi déjà qui parle beaucoup et puis c'est toi qui es allé au Canada. Mais vous, le Canada, c'est quelque chose qui vous attire. Et qu'est-ce que vous auriez envie d'y voir là-bas ?
C'est grand, c'est grand. Il y a beaucoup de choses à voir, j'imagine, donc...
Ouais, mais oui, pourquoi ça, pas un jour. Ça s'entend très bien aussi. Enfin, culturellement, il y a une scène qui est super intéressante là-bas. Enfin, il y a Women qui est arrivée du Canada et qui est une grosse influence pour nous tous ici, je crois. Donc, je sais que c'est un pays qui me tente beaucoup parce que voilà, culturellement, ça bouge et que musicalement, il y a des choses qui me plaisent là-bas. Et j'aimerais bien voir voilà, c'est quoi, quelles sont les structures là-bas qui font bouger tout ça et quelle est l'ambiance là-bas. Quoi. C'est un truc qui me plairait à voir. Ouais.
Et toi qui a séjourné, qui a vécu, travaillé un petit peu, qu'est-ce que t'en retiens de ce séjour canadien ? T'étais où déjà ?
J'étais à Montréal du coup. J'ai un peu visité ailleurs aussi, mais non, je dirais c'est plus le fonctionnement nord-américain. C'est un peu plus dans la débrouillardise, je pense. Do it yourself, quoi. Et du coup, on en revient au côté spontané, le fait d'utiliser les magnétos à bande et d'organiser des concerts à l'arrache dans des lofts désaffectés. En fait, ça te pousse peut-être à être un peu plus débrouillard, quoi. Et je trouve ça vachement cool, en fait. Mais après, pareil, c'est super cool aussi qu'il y ait tous ces dispositifs en France. Mais je pense que des fois, ça fait pas de mal de devoir se donner un bon coup de pied au cul, quoi.
Il y avait cette volonté-là d'être un peu poussé dans ces retranchements, d'essayer autre chose.
Mais c'est souvent pour ça qu'on fréquenter tous les gens, en fait, qui font vivre toute cette scène. Fatalement, tu apprends plein d'autres trucs, en fait, que t'aurais peut-être pas appris en étant parrainé ou machin. Voilà, quoi, c'est ce que je pense, quoi.
Unschooling donc à l'instant sur le haut-parleur, ils ont joué, voici donc l'interview qui s'achève, on vous retrouvera, on va vous suivre l'évolution de tout ça, on est toujours à Rouen. Accueillir nos amis de Mankins, les Rouennais, sur la grande scène de Rush cette année. Bonsoir à tous les trois. Bienvenue sur la web radio du 106. Grosse tournée en cours. Est-ce qu'on a un... Mais je vais donner mon micro, moi. Je vais juste poser une petite question et puis après, je vais donner mon micro. Grosse tournée en cours qui les fera passer par les Eurocaines de Belfort ou la Chine en juin, par exemple. L'annonce de la sortie d'un album fin août. Body Negative, toujours sur le label anglais Fat Cat Records. Deux singles ont été dévoilés, Urinals et Desperation Moon. Mankins, bon, on enfonce le clou hein, en quelque sorte là, hein, sur la web radio du 106 en direct du festival. Comment s'est passée cette saison 2018-2019? J'ai envie de dire que c'est une année un peu particulière pour vous, forte cette saison 2018-2019 où il s'est passé plein de choses. Comment est-ce que vous regardez cette année qui vient de passer là?
2018-2019, ouais, ça a été l'année qui a fait basculer plein de trucs pour nous. Enfin, des trucs dont tu as parlé, je pense déjà. Et puis, Et surtout faire l'année où on a fait notre album, en fait, on l'a enregistré l'été dernier. C'est, en fait, c'est le plus important pour nous. Et du coup, on est toujours en fait dans cette mouvance-là, dans la même année pour nous. C'est toujours 2018-2019. Enfin, ça l'est toujours dans les faits, mais en plus dans l'énergie, on est toujours dans le même truc jusqu'à ce que ça sorte pour qu'on puisse passer vraiment à autre chose, quoi.
Exactement.
Parce que, comme je disais, vu qu'on l'a enregistré l'été dernier. Là, la sortie, c'est 30 août. Pour nous, c'est une éternité. On n'en peut plus. On veut que ça sorte. Et puis c'est bon, là. On a déjà des idées pour l'autre album et tout, des trucs comme ça. Donc, voilà. On est plutôt dans cet état d'esprit-là, là, pour l'instant.
Alors, moi, j'ai lu dans la presse que vous étiez le groupe dont la France a besoin. C'est extraordinaire.
Ah oui.
Ouais, c'est bien, la France.
Ça, c'est bien vrai. Parce que, putain, il n'y a que de la merde. Hein. Non, je déconne. Non, mais je sais pas ce que c'est le groupe.
Non, mais ce que je voulais vous poser comme question, c'est est-ce que vous avez l'impression de combler un manque sur la scène musicale actuelle ?
Moi, je pense pas, non.
Non. On fait notre truc sans réfléchir à ça, je pense. Enfin, je sais pas quel manque il peut y avoir, en fait. Peut-être un manque de groupe à guitare. Enfin, je mets plein de guillemets avec ça, vu que la prédominance est hip-hop et musique électronique, mais après. Enfin, ça va aussi de pair avec la demande. Donc, c'est-à-dire que si la plupart des gens écoutent du hip-hop et de la musique électronique, c'est. Enfin, c'est juste logique, et au final, le rock est plus un truc indé actuellement, même si ça a à nouveau tendance à remonter ces derniers temps. Et c'est ni positif ni négatif, en fait, c'est juste un constat, quoi.
Ouais.
Je pense pas que dans cette mesure, on comble un manque ou quoi, c'est juste qu'on fait partie d'un truc qui revient.
J'ai presque failli vous nommer un groupe dispositif, à un moment donné. Ouais.
Merde.
Ouais, c'est con. Hein.
C'est
non, mais j'explique ça parce que vous avez du soutien de pas mal de dispositifs. Hein.
Oui.
Je prends par exemple le fait que vous étiez finaliste des Inouïs du Printemps de Bourges. Je crois que c'était en 2017. Ouais, c'est bien ça. Ensuite, il y a le Ricard Live Music en 2018 qui vous a permis de monter 3 titres. C'est bien ça.
Ouais.
Ça, on est en 2018. Et maintenant, vous êtes fait partie des 15 lauréats du dispositif FAIR qui est relayé par le ministère de la Culture.
Ouais.
C'est quand même énorme.
Bah c'est cool, ça aide bien. C'est des bonnes aides, pas juste financières. Ça nous aide à fond pour plein de trucs, quoi. Mais des trucs pas forcément. Je sais pas si c'est bien d'expliquer parce que c'est un peu boring, je trouve. Genre de dire qu'ils nous aident à remplir nos papiers, tu vois, des trucs comme ça.
Bah si, il y a un soutien administratif,
financier.
Oui,
c'est ça, il y a un soutien comme ça, mais bon.
Ce qui est quand même important quand même.
Ouais, mais c'est hyper important, mais
ouais,
je veux dire.
L'argent,
j'ai du mal à le dire dans une interview.
La seule question moi, que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un poids de la part de ce dispositif ? Est-ce qu'à un moment donné, ils ne sont pas en train de s'ingérer dans votre démarche ?
Parce non, ça n'a jamais été le cas.
Ça va ?
Je pense qu'on serait capable de dire non très vite. Donc, y a
mais
pas
même,
de souci
ils le disent vraiment, ça par contre.
Ouais.
Quand, moi, je l'ai ressenti avec le FAIR, avec Ricard aussi, mais surtout avec le FAIR. Ils donnent des... Ils te disent vraiment qu'ils vont pas, ils vont te laisser faire ce que tu veux, quoi. Et puis c'est vrai, ils nous laissent faire ce qu'on veut. Vraiment, si il y a des trucs qu'on veut pas faire, on le fait pas, quoi.
Revenons à Rouen,
ouais.
Qui est une scène rock quand même depuis déjà pas mal de temps, puisqu'on a les Olivenstein, on a les Dogs, avec le regretté chanteur qui est décédé. On a un label comme Snap Records également. Est-ce que vous inscrivez dans cette lignée rock ? Est-ce que vous la revendiquez en étant sur Rouen ?
Pas du tout,
pas trop.
Vous en foutez complètement ?
Absolument.
D'accord.
Bah, je sais pas si j'irais. Moi, c'est juste qu'à dire que je m'en fous, mais c'est pas le truc qu'on. Enfin, on se voit pas tenant de ce truc-là, quoi.
Et puis le rock en lui-même, c'est pas un truc qu'on défend spécialement. Enfin, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce truc des esthétiques, le hip-hop, l'électro, le rock. Enfin, chacun fait son truc, et puis voilà. Enfin, c'est plus une question d'outils. Genre faire de la musique avec des guitares, des synthés, des trucs comme ça, mais tout est valable au final, peu importe les genres. Donc, non, on se revendique pas d'un patrimoine rock, que ce soit. Après, ce truc de se revendiquer d'une ville, ça a beaucoup plus déjà, parce qu'il se passe des choses
oui,
en ce moment.
Oui, c'était ça
en fait.
Le sens de la question.
Ouais, il se passe des choses en ce moment, en fait, à Rouen. Et c'est plus ça qu'on revendique, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de Sosa en particulier, avec plein de groupes. Je pense à Cerveau, We Hate You Please Die, Dharma Bum, M Schooling, enfin, la liste s'allonge, quoi. Mais oui, ça, c'est un truc qu'on revendique vraiment et qu'on soutient du mieux qu'on peut, parce que c'est important de participer à l'émancipation d'une scène, je pense. Sur le long terme, c'est quelque chose de très, très important, je pense.
Ouais, puis c'est pas forcément, Rouen n'est pas forcément une ville, au départ, où on peut penser qu'il y a un dynamisme. Excusez-moi de vous le dire.
Bah non, c'est sûr.
c'est clair. Parce que, Adrien, t'as un projet solo.
Ouais.
Hein, qui s'appelle Modern Men.
Ouais.
Et quand je suis allé voir effectivement la présentation de Modern Men, il y a ses propos. Ça représente un centre-ville de Rouen où les gens se connaissent à perpétuité, dans une ville tranquille, à l'abri du besoin. C'est terrible quand même comme définition de Rouen.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Donc il y a quand même ce côté un peu de rébellion à vouloir effectivement montrer que Rouen n'est pas que ça. Et le rock y participe quand même.
Oui, oui, c'est certain ce truc-là. Enfin, je pense qu'il faut profiter de ce truc qui se passe en ce moment avec tous ces groupes. C'est le moment de faire ce truc-là quoi qu'il arrive.
Ouais. En fait, je trouve qu'il y a eu un truc qui s'est passé et que c'est pas depuis très longtemps. À Rouen, c'est que depuis peu, les groupes se parlent en fait, je pense. Et du coup, ça a tout déclenché. C'était juste, mais après c'est une barrière énorme quand même, je trouve. Ouais. Hein. C'était pas qu'il y avait une compétition ou quoi, mais en tout cas c'est ce que je ressentais. Il y a pas trop de communication entre nous, même des groupes qui aimaient, des gens qui aimaient ce que d'autres groupes faisaient, ça se disait pas forcément, je veux dire. Enfin, après je dis pas que ça a toujours été comme ça à Rouen, c'est juste dernièrement, je sais pas. Enfin, il y a pas de si longtemps que ça. Et là d'un seul coup ça a switché un peu, où ils se parlent et puis du coup il y a des trucs comme Sosa en plus, mais je crois qu'il y a pas que ça. Hein. Et du coup, toute cette structure bosse ensemble, du coup, ça fait un gros truc, un truc que personne peut louper. Et du coup, y a plein de groupes. Par exemple, je pense à Kumusta, là, truc que je connaissais encore pas du tout, moi, il y a quelques mois. Et vu qu'Adri bosse avec eux et que ça passe par Sosa, qu'il y a tu produis les trucs et tout, tu vois, c'est des trucs. Je pense que Kumusta fait partie des groupes comme ceux-là, comme où il y avait aussi Bucket Beans, dont on n'a pas parlé, tu vois. Si on rajoute ça à la liste dont il a déjà parlé, ça fait vraiment un truc énorme. Et encore, encore plus, ça, c'est les trucs que je connais parce que ça reste, ouais. Y a de la guitare, machin, des trucs comme ça, donc ça me parle plus. Mais sinon, il y a même du hip-hop et tout, il y a plein de trucs en fait. Et maintenant, ça communique. Ou en tout cas, ça, on sait qui fait quoi, qui peut faire quoi et tout. Du coup, c'est imparable après. Dès qu'on a des idées, ça se met en place, quoi.
Ok, merci Mankins. Évidemment, vous êtes attendu ici. Puisque vous êtes dans votre fief, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde pour vous.
Bon, on espère, ouais.
Bah, c'est cool. C'est pas espéré. Bah, vous doutez d'un seul coup, là.
Non, bah non, oui, ça, oui, sûr, par contre. Alors,
là, d'un seul coup, là, il y a un petit souci.
Ouais, on a toujours des doutes. Tout le monde a des doutes. Okay. Heureusement.
Merci, les gars. Quelque chose à rajouter, Adrien ? Aucun. Non. Ok. Bien, merci à vous. Et bon concert. Calm down.
Voilà, on accueille sans plus tarder Zombie Zombie, Cosmic Neyman, Étienne Jomet sont déjà en plateau avec nous. Docteur Schoenberg nous rejoindra peut-être, mais je crois qu'il assure la partie merch en bord de scène. Et ça, c'est aussi ça la vie des festivals. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Salut.
C'était peut-être considéré comme un side project Zombie Zombie, parce que vous, les uns et les autres, vous aviez différentes formations. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Zombie Zombie, c'est le projet?
Ouais, moi je pense. Enfin, pour moi, oui.
c'est le projet, le vrai projet.
Il y a encore d'autres choses en cours. Je crois que Fabienne.
Je vais les évoquer en deuxième partie. Je te laisse.
On y reviendra alors. Vos enregistrements sont faits en live. En tout cas, très souvent, si je dis pas d'annerie, vos lives et vos morceaux laissent part une part conséquente à l'improvisation.
C'est vrai.
Vous abordez la musique ou les musiques électroniques comme des jazzman.
Ouais, en quelque sorte, sans avoir vraiment la...
Sans avoir le niveau des jazzmen. Mais...
Ni le swing.
Est-ce qu'il reste quand même des parties écrites?
Bien sûr, ouais, elles sont peut-être pas très audibles. Surtout ce soir, là, on était vraiment à l'énergie. Du coup, les mélodies passaient un petit peu en dessous l'enthousiasme. Mais bon, c'est ce que les gens avaient envie. On sentait ça. Il y avait une bonne ambiance. Hein.
Justement, comment ça s'articule, ces parties écrites et puis ces parties improvisées, que ce soit au moment de session d'enregistrement ou en live comme ce soir? Comment ça se goupille, cette histoire?
Nous, on est comme des animaux, hein, on travaille à l'instinct. Je crois que c'est Monsieur Loiseau qui dit ça. On est des animaux, mais je crois qu'on est vraiment des animaux. Donc, c'est très intuitif, il n'y a pas vraiment de... On fait ça un peu sur le moment et on garde ce qu'on préfère. C'est souvent la première prise. Je sais que c'est un cliché de la musique, mais qui est souvent vrai pour nous. On essaye toujours de refaire mieux, puis on n'y arrive pas. Donc on garde souvent la première prise qui est la plus intuitive, même s'il y a des défauts, c'est celle qui a le plus de charme. Et on aime bien qu'il y ait un peu de charme. C'est vrai que la musique électronique aujourd'hui est très... très lisse, on peut modifier chaque pas sur ordinateur ensuite, il n'y a plus de défauts, tout est parfait. C'est vrai que nous on aime bien laisser un peu les choses, quelques erreurs qui font le charme.
J'en ai pas entendu ça, moi.
Fabienne?
Oui, donc moi je voulais revenir justement sur les collaborations et vos projets connexes, hein, qui sont très actuels d'ailleurs, hein, juste pour pouvoir étayer avec vous ces univers un petit peu parallèles de ceux de Zombie Zombie, même si Zombie Zombie, on l'a bien compris, est maintenant le projet principal. On va commencer avec toi, Cosmic Neyman, en passant vers le classique, avec ta collaboration avec Vasilena Serafine Nova.
Alors, ça, c'est
un percussionniste classique.
Tu es bien renseigné.
Alors, là, tu es très très bien renseigné parce que on s'est vu une seule fois pour l'instant.
C'est une petite collaboration.
Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est un début et effectivement, on va jouer ensemble le 15 juin dans un endroit qui s'appelle le Jardin de Simone, qui est un jardin dans le 19e, qui est un endroit magnifique. Mm-hmm. Et oui, c'est une percussionniste qui travaille surtout, enfin déjà avec Chloé d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Et effectivement, classique, joueuse de marimba, vibraphone. C'est très difficile pour moi parce qu'elle est bien meilleure que moi rythmiquement. Donc je rame un petit peu, mais je suis très heureux. En tout cas, on va faire quelque chose de très percussif, tous les deux, acoustique et aussi un peu, avec un peu d'électronique. Ouais.
Étienne Jomet, par contre, toi, tu as sorti un album solo.
Oui, il n'y a pas longtemps. Bon, enfin, oui, l'année dernière déjà.
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Non.
Qui s'appelle Regard Oblique et qui reprend des standards de jazz. Ouais. C'était une volonté depuis très longtemps de reprendre des standards de jazz.
Ouais, c'était presque un fantasme. Parce que je me sentais pas à la hauteur vraiment de ces thèmes, de ces interprètes, et il a fallu que je trouve, il a fallu tout ce temps pour trouver le moyen un petit peu de reprendre à ma façon ces morceaux que j'ai extrêmement simplifiés, mais voilà, je pense que le jazz, justement, j'ai pas envie que ça soit quelque chose de compliqué, parce que moi je le prends comme une musique justement assez libre et pas obtus ni élitistes, au contraire, c'était fait pour danser dans les clubs, c'était un peu joué par des voyous, enfin ça n'avait rien d'intellectuel. Et oui, du coup, j'essayais de prendre au même niveau avec ces 7 reprises, parce qu'il y a un morceau original sur l'album.
Ah bon ?
Et oui, c'est bien, tu l'as pas remarqué, c'est parfait, ça me fait très plaisir.
Je suis désolé.
Non, mais tu m'as mis à la même hauteur que les autres auteurs. D'accord. Justement, Miles Davis, voilà, c'est John Coltrane, je suis ravi. C'est parfait.
Comment on fait quand on fait de la musique répétitive pour ne pas se répéter?
En fait, c'est impossible de jouer la même chose de la même façon. Alors, on dit que c'est répétitif, mais en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir un peu derrière la répétition, ce qui se passe. Et nous, c'est ce qu'on aime un petit peu provoquer, c'est-à-dire même si on reste bloqué sur une note ou sur un groove, il se passe toujours quelque chose malgré nous, et c'est ça qu'on recherche en fait. C'est un petit peu l'accident. Je sais pas comment. Bon, allez, approuvé. Réponse approuvée.
C'est quoi votre regard sur la production musicale, sur le fonctionnement de cette industrie?
Alors là, c'est une question qui va être difficile de répondre en 2 secondes. Ça.
Il y a toujours beaucoup de musique, ça c'est super. Je pense qu'il y a beaucoup de labels, plein de choses qui sortent tout le temps. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est les quantités. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, s'intéressent plus à l'objet physique. Préfèrent écouter la musique sur YouTube. Ça, je trouve ça vraiment déprimant. Moi, personnellement, même si YouTube, c'est génial, c'est quand même une plateforme en streaming. En gros, quand tu écoutes de la musique, il y a des fils qui font le tour de la Terre pour écouter un morceau. C'est une des pires choses qu'on puisse faire, je pense, mais personne ne s'en rend vraiment compte. Et puis surtout, ça, je trouve ça un peu dommage, même si par contre, c'est un puits de savoir. On peut vraiment trouver, moi aussi, hein, ne vous inquiétez pas, je vais sur YouTube. Mais
ça arrive à voilà. Des gens bien.
Voilà, après, je pense que vraiment, le monde de la musique, les grosses maisons de disques n'ont vraiment rien compris à ce qui s'est passé au numérique. Ils ont fait n'importe quoi, donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on en est là. Et effectivement, c'est ce qui est bien, c'est qu'il reste la musique, les concerts, la musique live. Je pense que la musique à la base c'était ça, on était musiciens, c'était des troubadours, c'était des gens qui allaient quelque part jouer leur musique. Je pense que c'est pas remplaçable. Les hologrammes ça existe déjà, mais c'est quand même pas aussi bien. Heureusement il reste ça, voilà. Moi j'aimerais bien que les gens achètent plus de disques. Ce serait juste ma requête.
Merci en tout cas, Zombie, d'être passé par nos micros. On devrait retrouver dans quelques instants.
Bungalow, dépression, ils sont trois désormais. J'ai dit une bêtise ou quoi? Non,
non,
non, non, c'est les sucettes sur les micros.
Ah oui, c'est vrai.
C'est une petite astuce de Kirik qu'on oui. salue au passage.
Ouais, qui s'occupe de la régie son et qui nous avait effectivement collé quelques bonbons sur les micros. Bah, ça permet un petit peu de sucre en même temps quand on a besoin. Quoi. Ça peut servir. Et effectivement, il faut peut-être qu'on explique à ceux qui nous écoutent. Ce sont des bonbons et des sucettes qui sont collés, attachés, scotchés sur les micros. Bref, merci Kirik hein, pour ce grand moment. Bungalow Dépression, initialement c'est le projet solo de... Alors il y a Timothée qui est avec moi, hein?
Re Manu.
Toujours là. Ah, tu l'as déjà dit? J'ai déjà dit bonjour, non?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Ouais. On peut le refaire, hein. Salut Manu, je suis content d'être là.
C'est vrai que c'est de la troisième journée, on est tous un petit peu plus, je sais pas, dans un mood un peu différent, quoi. Enfin, pas forcément vous qui êtes là, Bungalow Dépression, vous, ça va, vous êtes à fond, là?
Ouais, ça va.
Bon.
Ça va mieux.
Ouais. Mais nous, on est un petit peu entre deux eaux. Bref, on s'en fout. Bungalow Dépression, projet solo de la Rouennaise Anne-Laure Labaste, violon, pédale d'effet, boucle, sample. On a le groupe Greffel, une partie du groupe Greffel qui s'est greffé justement au projet. Ah ouais, c'est beau. Clément David à la basse et puis à la batterie, Hugo Magontier qui est membre, lui, du groupe Cerveau. Anne-Laure Labaste, donc... musicienne que l'on retrouve dans de nombreux groupes normands. Il y a eu pas mal d'aventures normandes depuis quelques années. Bengal, Orchester, j'en oublie sûrement. Il y a eu d'autres groupes encore.
Ouais, il y a eu quelques autres groupes. Ouais.
Tu peux nous les citer?
Il y a eu Mosra en plus.
Mosra. Et donc tous ces projets-là, bon, ils se sont arrêtés. Et ensuite, toi, tu as décidé de te lancer dans un projet solo, alors qu'au départ, effectivement, ton instrument de prédilection, c'est le violon. Tu étais dans ces groupes avec ton instrument. Et puis, un jour, tu t'es dit, bah, je vais lancer mon truc, quoi. Je vais faire mon truc à moi, quoi.
Ouais, c'est ça. Enfin, jouer du violon dans des groupes de musiques actuelles, c'est super cool, mais ça permet pas non plus d'exploiter... toutes les possibilités de l'instrument et tout ça, et donc à un moment donné j'ai eu envie de voir jusqu'où ça pouvait aller avec juste le violon, donc ça a commencé comme ça.
Et qu'est-ce que ces années d'activisme dans la musique avec ces groupes-là forcément du coup la rencontre avec d'autres musiciens, qu'est-ce que ça a provoqué ça au cours de ces 5-6 dernières années? La rencontre justement avec d'autres musiciens forcément.
Bah, c'est toujours hyper enrichissant, enfin, on rencontre des gens différents, des façons différentes de bosser, dans des styles différents aussi, donc oui c'est toujours enrichissant.
Et comment est-ce qu'on en arrive justement à partir sur un projet solo et puis à se dire bah, finalement il faut peut-être... Parce que ça a quand même changé beaucoup
ouais.
depuis... Alors la dernière fois qu'on avait écouté, enfin que moi en tout cas j'ai entendu ce que tu pouvais faire avec Bungalow Dépression, tu étais donc toute seule, c'était au 106 pour Radio Lomax sur un set qui voilà, n'avait rien à voir quasiment. Enfin,
pas... Ouais ouais, non mais si carrément, parce que le solo était clairement musique expérimentale, un peu noise. Et donc c'était des morceaux très étirés de 15-20 minutes et donc j'ai pas mal joué avec ce truc là et au bout d'un moment j'en avais juste marre de jouer toute seule parce que j'aime bien jouer en groupe et il se trouve que bah, Hugo et Clément m'ont dit un jour, ça devait être à la fin d'un concert, bah, on aimerait bien tester des trucs dessus, rajouter de la batterie ou des boîtes à rythme, de la basse et c'est un truc auquel je commençais à penser aussi, donc on s'est dit bah allez vas-y, on se lance, et bah, le fait d'avoir une batterie et une basse, ça permet aussi de construire les morceaux, et voilà.
Et alors le violon, la place du violon, parce que forcément c'est ton instrument de prédilection, le ouais. violon. Quel rôle il joue dans la composition? Parce que j'imagine que c'est assez fondamental. Et comment est-ce ouais. que tu l'abordes ton instrument d'une façon différente, j'imagine que de manière classique, ça se voit quoi.
Ouais, ouais, bien sûr. Bah, déjà, il est blindé d'effets, donc on a très peu de sons vraiment de violon acoustique ou peut-être des fois des débuts de morceaux. Le violon, en gros, dans la construction des morceaux, globalement, il fait souvent une base au début, un peu drone avec des boucles. Ensuite, cette boucle reste et il se passe des choses par-dessus. Donc ça se passe un peu comme ça. Et puis, il y a pas mal de morceaux aussi que j'avais commencé sur ordi. Donc il va y avoir des samples qu'après Hugo va balancer en live. Je vais pas forcément tout faire au violon. Enfin bref, c'est un peu d'aller-retour comme ça.
Mais ça dépend vachement des morceaux en fait. Il y a certains morceaux qui sont vachement plus basé sur le violon, d'autres où ça va plus être un élément qui va s'ajouter à la moitié du morceau pour faire une espèce de palier, mais certains morceaux qui commencent quasiment uniquement avec du synthé. Et
puis il y a le synthé aussi, ouais. Et ce que je trouve intéressant en fait dans ce projet, c'est ce qu'on s'était dit à un moment donné, c'était mélanger aussi. À un moment donné, peut-être qu'on ne sait plus si c'est le synthé ou si c'est le violon. J'aime bien cette idée en fait, qu'on soit un peu perdu et qu'on se dise ah ben je croyais que c'était le violon. Ou même des fois, Hugo, ah ben je croyais que c'était toi qui faisais ça. En fait, c'est Clément qui le fait à la basse. J'aime bien un peu que les sons se perdent comme ça. D'où aussi le truc qu'on a mixé batterie acoustique et SPDS pour avoir des batteries électroniques. Enfin, on aime bien faire ça.
Et du coup, tu envisages le violon d'une façon, ton instrument d'une façon complètement différente, j'imagine.
Ouais, bah j'ai jamais été une excellente violoniste classique, donc j'ai dû trouver d'autres moyens. Non, mais oui, je suis pas dans la technique ou dans la virtuosité qu'on peut souvent attendre de cet instrument. Je suis plus dans la recherche de son, comment on va le faire grincer, comment on va faire des petits effets, avec ou sans pédale d'ailleurs, mais voilà, c'est plus ça effectivement.
Alors, dans la présentation sur le programme du festival, on parlait d'un aspect un peu mystique, mais du coup, j'imagine qu'on se concentre beaucoup, quand c'est les premiers concerts, sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a le temps de laisser partir son esprit, le faire voyager un peu? Est-ce que ça a été le cas là, par exemple, sur le haut-parleur? Est-ce que cette vision un peu mystique des choses, elle était présente aujourd'hui?
Je sais pas.
Ça existe ou pas en fait, ça? Ou c'est juste un...
T'étais mystique toi, Clément, aujourd'hui?
Je pense que là aujourd'hui on était tous très concentrés sur ce qu'on faisait. Ouais, on n'avait pas trop le temps de se poser des questions autour, donc on était, je pense, chacun dans notre truc. Et enfin, je pense pas avoir levé les yeux une seule fois du concert. Du coup, de là à parler de mysticisme, là c'est un peu...
Mais ça veut dire que vous allez gagner en liberté avec l'expérience?
Bien sûr, il faut le roder le set, hein. Clairement c'était le premier, et ça vient en jouant beaucoup, et c'est notre but là pour l'année à venir. Donc plus on jouera, plus on sera à l'aise, comme à chaque fois. Et là c'est vrai que c'était un peu impressionnant pour un deuxième concert, quoi. On était très concentrés.
Oui, juste une dernière chose sur l'enregistrement là, avec la nouvelle formule, on peut annoncer des trucs ou enfin, ça en est où? Et est-ce qu'on pourra se procurer ça prochainement?
À la rentrée scolaire, on va dire.
Oui, dans le meilleur des cas, mais je pense que ça va. On avait commencé à enregistrer des trucs, et je pense qu'on va peut-être rebooter un peu le truc, reprendre de zéro. Donc on va essayer de faire ça cet été, mais voilà.
On enregistre cet été, mais on sait que ça prend du temps. On peut pas annoncer de date vraiment certaine, mais ce sera aux alentours de octobre-novembre, oui, par là.
Pour l'instant, il y a vraiment rien de sûr, donc je pense qu'il faut pas annoncer grand-chose, et puis on verra au moment venu.
Vous savez pas dans quelles conditions.
Si, on sait comment on va enregistrer. Ah. Enfin, on va faire ça nous-mêmes quoi qu'il arrive.
D'accord.
Mais c'est juste que là, faut qu'on trouve les créneaux, les dates pour justement pour faire les prises de son enregistrées. Après, il y a toute la phase de mix qui va prendre du temps. Donc, on aimerait faire ça cet été, mais pour l'instant, c'est quand même encore vachement en discussion, donc on peut pas annoncer grand-chose.
Ah ouais, puis il y a un truc dont on n'a pas parlé en fait, et qui est vraiment un très gros changement aussi. Et on parlait du fait que tu passes de violoniste d'un groupe à leader d'un groupe avec
chanteuse.
C'est ça. C'est la voix, le chant. Ça, c'est complètement nouveau.
Ouais,
ça.
C'est nouveau, ouais. Avant, c'était dans ma douche, et ouais. Maintenant, c'est dans un micro sur scène, du coup. Pareil, ouais, c'est nouveau, il faut que je m'approprie le truc, mais j'aime bien, enfin, ça me plaît pas mal, mais ouais, c'est...
Et ça, on le doit à quoi, en fait?
J'aime bien le chant, j'aime bien les voix, et dans la construction d'un morceau, je trouvais ça intéressant d'apporter ça par-dessus, je pense que ça nourrit bien, c'est... Puis ça tient toujours un peu les gens aussi. Je pense que la voix, ça touche encore d'une autre façon qu'un instrument. Et voilà, j'avais envie de chanter, je me suis fait plaisir. Quoi.
Parfait. Et ben ça nous fait plaisir aussi. Donc, Bungalow, Dépression, on attend donc un enregistrement sans doute à l'automne prochain, voire l'hiver. Mais
on espère avoir.
Mais on ne sait pas, mais on verra bien.
Il laisse planer le doute, moi j'ai l'impression que c'est un peu volontaire aussi.
Hein. C'est le côté mystique en fait.
Ah, c'est ça,
on y revient là.
C'est le teasing mystique. Merci beaucoup, voilà. Bungalow, Dépression, d'être venu sur cette scène. Vous y étiez déjà un peu avant nous, donc mais de l'autre côté sur la web radio du Sensus, je suis vraiment fatigué.
Tout va bien, Manu.
Et donc là, en ce moment, on a quoi sur scène?
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine au 106, ce soir, 106 Expérience, donc concert gratuit en mode hip-hop avec 4NG, Soren Kada et ADM. Et jeudi soir, concert de Nashville Pussy.